RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Ce soir, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci d'être notre invité. Donc ce soir, merci d'être avec nous. Alors Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, a lancé son grand débat dans une commune de l'Eure face à 600 maires qui ont commencé à collecter les cahiers de doléances. Le président était entouré des maires et depuis longtemps, Emmanuel Macron n'avait été vu comme ça, en réalité, dans une posture d'écoute. Restaurer le dialogue avec les élus, est-ce que c'est, d'après vous, un bon départ et c'est, dans le fond, l'axiome de base ?
Sans vouloir polémiquer, moi je suis très surpris. D'ailleurs, on oublie de dire qu'il y a eu plusieurs manifestations interdites dans l'Eure, que des simples citoyens qui portaient un gilet jaune ont eu une amende de 135 euros parce qu'ils osaient apporter leur gilet jaune. Et donc, c'est une façon de procéder très monarchique. Nous sommes revenus à l'Ancien Régime. Sa sainteté, où le monarque va parler au bon peuple à travers ses élus. Moi, je suis très surpris de tout ça. Le grand débat, ça veut dire quoi en démocratie ? On est autorisé de débattre de certains sujets. Il y a deux ministres qui cadrent le débat. Parce qu'il faut cadrer le débat, parce que nous ne sommes que sans doute des sous-citoyens.
Est-ce que vous ne caricaturez pas là,
je caricature pas. Ouais. On est arrivé à un degré de compromission et de soumission intellectuelle dans notre pays pour accepter quelque chose qui se produirait chez Poutine. Vous diriez, mais c'est quoi ce truc ?
Pour être honnête.
En démocratie, je suis désolé, en démocratie, on débat tout le temps. On n'a pas besoin de l'autorisation du président de la République pour poser des questions et on débat sur tout. Le thème de l'immigration a été interdit.
Il a été réduit. On va en parler. Mais pour être honnête, ce qui se passe, ça n'est pas quand même simplement Emmanuel Macron qui va délivrer une sainte parole. La vérité, c'est. Ah, alors ça, pour le coup, vous êtes peut-être dans le procès d'intention.
Non.
En tout cas, à l'image, on le voit. Non, mais on le voit qui écoute ce que les maires ont à lui dire et il répond. Il y a 600 maires de Normandie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout là-dedans, une forme de courage politique? Ils se jettent dans l'arène en écoutant des maires qui sont en colère.
Écoutez, en faisant arrêter les gens qui osent venir aux abords, en interdisant des manifestations, et en écrivant aux Français une lettre que j'ai lue, vous l'avez lue, disant « je ne reviendrai sur rien », il a écrit, de tout ce que j'ai fait depuis 18 mois. Or, justement, s'il y a des manifestations tous les dimanches, s'il y a un tel désaveu politique manifesté par les Français à son égard... C'est bien parce que les Français en ont assez de la politique qu'ils mènent. Donc moi, je n'aime pas, je vous dis ce que je pense, je n'aime pas cette hypocrisie. D'ailleurs, il y a 70% des Français... Mais attendez, d'abord, soyons clairs. En démocratie, on débat tout le temps. On n'a pas besoin de débattre sur ordre et sur commande et sur certains sujets.
On débat où, de quelle manière ? Parce que là ça prend une forme...
C'est pas à vous, journalistes, que je vais dire qu'on débat dans la société. Les manifestations des Gilets jaunes, c'est une forme de débat. Entre nous, on débat tout le temps. Ensuite, si on veut aller plus loin...
Oui, vous dites entre nous.
Entre nous. Entre nous, là, je vous dis... Non, on débat tout le temps. Mais attendez, moi, je reçois comme député des dizaines de lettres par semaine. J'y réponds. Remarquez, je réponds aux députés En Marche qui, dans mon département, ne répondent à personne. Donc, c'est peut-être que je fais le boulot. Mais sérieusement, si on veut aller plus loin dans un débat sur un sujet, le débat doit être sur un référendum. Il y a eu un magnifique débat sur l'Europe parce qu'il y avait un texte qui était soumis au peuple français. Le problème de ce débat, c'est qu'il est vague, en même temps il est limité, et il ne débouche sur rien.
Est-ce qu'il ne faut pas laisser une chance au produit est-ce que c'est pas une
chance.
Non, mais laissez-moi finir. Est-ce que ce n'est pas une alternative à un référendum en réalité, ce grand débat?
Ça n'aboutit à rien, c'est du blabla intégral.
Attendez.
Si on veut que les Français se saisissent d'un sujet au-delà du débat démocratique habituel, eh bien alors qu'ils posent une question aux Français par référendum et qu'ils en assument le résultat. Là, ce que je n'aime pas dans ce qui se passe, c'est que c'est un truc de communicant en fait. Un conseiller du président Sarkozy me racontait récemment, il me disait, oui, ça c'est le truc éternel, il l'avait aussi conseillé à Sarkozy sur le débat sur l'identité, c'est des trucs de communicants qui ne mènent à rien. Parce que tout est dans la main du président. Et donc les Français légitimement, d'ailleurs 65% des Français estiment que ça vaut rien, savent très bien que tout est pipé d'avance. Si le président veut débattre avec les Français et veut qu'il y ait un résultat, il pose une question par référendum. Ah oui. On lui demande pas d'être organisateur de débat, on lui demande des décisions à soumettre au peuple, et il y a un conflit légitime aujourd'hui entre le peuple et lui. Il y a un conflit sur la politique menée. Eh bien, le peuple peut être arbitre, il suffit de proposer un référendum.
Nicolas Dupont-Aignan, là, on est dans une situation sociale qui est assez inédite. Ce mouvement des Gilets jaunes ne ressemble à aucun autre, ni dans sa forme, ni dans sa durée, et peut-être aussi, finalement, ni dans son côté parfois un peu vague. Parce que les revendications... Non, mais il y a des revendications qui sont précises, par exemple le revenu d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative citoyenne, c'est peut-être un lapsus intéressant, d'ailleurs. Mais il y a parfois aussi des choses... beaucoup plus fantasque par moment, vous le savez très bien. Il y a des revendications. Bah, écoutez, quand il s'agit par exemple de mettre un général à Matignon, ou quand il s'agit simplement de dire...
Ce sont des paroles, ne caricaturez pas, voilà. Ce sont des paroles qui ont été mises
en les revendications partent un peu dans tous les sens. Écoutez, ce que fait le président de la République, il dit, bon, écoutez, il y a un malaise qui s'exprime, il y a une colère qui s'exprime, réunissons-nous, parlons-en, on verra ce qui en sort, et on essaiera d'en faire la synthèse.
Le président
la démarche n'est pas forcément inintéressante.
Le président de la République veut gagner du temps pour étouffer la protestation et n'a pas compris ce qui se passait dans le pays. Il y a deux revendications très simples du mouvement des Gilets jaunes. Il y a une première revendication sur le pouvoir d'achat. Et il y aurait eu une mesure très simple qui aurait montré la bonne foi du gouvernement et du président. C'est la réindexation des pensions de retraite. Parce que ça, la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation, c'est indéfendable. C'est un coup de canif au contrat de tous les retraités de France. Et c'est une chose simple qu'il pouvait faire. Mais ça, il ne le veut pas. Ensuite, il y avait la question des bas salaires. Quand il y a eu la crise de 68, le général de Gaulle et Georges Pompidou, après, ont ouvert des négociations salariales. En vérité, le président de la République ne veut pas renoncer à sa politique. Et donc, il organise un grand blabla qui ne trompe personne, qui est un moyen de gagner du temps. Eh bien, quand un peuple est en colère, moi, je pense, c'est mon avis, qu'au lieu de vouloir gagner du temps, surtout après des semaines où on a donné entre nous une image de la France qui n'est quand même pas brillante à l'étranger, je pense qu'il a tout sur la table. Et c'est à lui, maintenant, de prendre les mesures qu'il estime bonnes pour le pays et de les soumettre à référendum.
Alors,
s'il ne le fait pas...
Vous dites un référendum, mais sur quoi?
Ce serait quoi
la question?
Sur les mesures fiscales qu'il entend prendre pour rétablir la justice et permettre la relance du pouvoir d'achat. Car les Français ont été sur des ronds-points, je les ai vus, des retraités, des artisans, des commerçants, pas des manifestants habituels, parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail, plus vivre. Et donc les Français attendent maintenant du concret. Et donc le président de la République,
moins d'impôts, mais comment on...
Eh bien, moi j'ai fait des propositions... J'ai pas attendu le grand débat. Je les ai faites avec Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle. Nous avons déposé une proposition de loi dès novembre, avec 40 articles et des mesures très concrètes, avec des économies d'un côté et des dépenses de l'autre, pour réindexer les pensions de retraite, réindexer l'épargne populaire du livret A, donner un coup de pouce sur les bas salaires. Ça, c'est du concret. Et faire enfin le référendum d'initiative
le
citoyenne.
Le coup de pouce qui sera
par une baisse de la CSG, baisse de la CSG sur les bas salaires, qui permettrait de donner 3% tout de suite, puis 10% de hausse des salaires. Car le problème, c'est pas le salaire versé par l'entreprise, c'est le salaire reçu par le Français. Et vous savez que dans notre pays, les charges sont tellement importantes, charges salariales, CSG, qu'on ne peut pas continuer à vivre de son travail. Il n'y a pas besoin d'attendre encore 2 mois, après 2 mois et demi de crise, pour savoir ce qu'il faut faire. Simplement, je vais vous dire la différence. Il ne veut pas le faire. C'est ça le problème. Donc il noie le poisson. Et tout le monde a compris ça.
Aujourd'hui, les sujets, les pistes de réflexion qu'a proposé Emmanuel Macron dans sa lettre sont quand même extrêmement nombreux. Et il y en a tellement qu'il serait sans doute difficile d'organiser un référendum qui, pour le coup, compterait... il y a 34 questions, ou 35 dans la lettre
d'Emmanuel Macron. Il est président pour poser des questions.
Mais attendez, est-ce que ça ne nous intéresse pas, par exemple, que dans ce débat soit mis sur la table la question de l'immigration, avec la question de savoir s'il faut fixer des des objectifs annuels votés au Parlement. Ça, c'est le genre de choses que vous réclamez.
Mais c'est un des éléments, mais c'est curieux, c'est le même président qui a envoyé son gouvernement signer le traité de Marrakech sans consulter ne serait-ce que les parlementaires. Mais quelle crédibilité accorder à ce président qui va faire signer le pacte de Marrakech de l'ONU par la France dans l'opacité la plus totale.
Sur le pacte de Marrakech, on entend tout et son contraire.
Oui, bon, on entend tellement tout et son contraire qu'en Belgique, il y a un gouvernement qui est tombé.
Mais il y a ceux qui disent que c'est affolant, que ça veut dire des millions d'immigrés dans les pays d'Europe, et puis il y en a d'autres qui disent mais absolument pas, et ce pacte n'a aucun caractère contraignant.
À tout le moins, il eût peut-être été utile d'en discuter au Parlement. Il aurait peut-être été utile que le président de la République en parle dans sa lettre. Donc, comment accorder... Je n'accorde aucun crédit à cette parole présidentielle qui ne serait-ce que du mensonge. Mensonge sur Marrakech, mensonge sur les traités de libre-échange du CETA, mensonge sur l'Union européenne. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot dans sa lettre.
Vous croyez que ça intéresse les Gilets jaunes, ça
Vous plaisantez, les Gilets jaunes ont fait tout à fait le lien. Oui. Vous savez, j'étais à Auxerre, sur un rond-point au Nouvel An avec les Gilets jaunes. Ils ont tout à fait le lien entre les travailleurs détachés et les routiers qui n'ont plus de travail. Et
Nicolas Dupont-Aignan.
Non mais attendez, il faut arrêter de faire... Les Français sont intelligents.
Ah mais ça n'est absolument pas le soupçon de la moindre, du moindre Donc, déficit d'intelligence.
C'est curieux quand même, excusez-moi, d'avoir une lettre aux Français extravagante qui parle de tout, sauf de l'Union européenne, sauf de la mondialisation, sauf des traités de libre-échange. On est sur France 24. Il va y avoir des élections européennes le 26 mai. Eh bien, on fera des élections européennes, le référendum qu'Emmanuel Macron ne veut pas donner aux Français.
Je vais vous proposer justement d'écouter Emmanuel Macron. C'était en préambule, enfin, quand il est arrivé face au maire, c'était cet après-midi. Il fait un constat. Il trouve trois crises. Trois crises qui existe depuis de longues années, et écoutez ce qu'il dit.
Ce qui est en train de remonter aujourd'hui, et qui vient de très loin, c'est une fracture sociale, on en parle depuis 25 ans, une fracture territoriale qui n'a cessé de croître, une fracture économique qui a frappé les classes moyennes, et une fracture démocratique qui a sans doute vécu un moment important en 2005 en France, dont on n'a pas voulu tirer toutes les conséquences. Et c'est vrai que le nom sur lequel on est revenu a créé une forme de fracture démocratique qui remonte quand j'écoute ce que nous disent nos concitoyens aujourd'hui.
Voilà, là, il parle de l'Europe.
Mais non, mais il n'y a pas un Français.
Non, il dit on n'a pas tiré les enseignements du non. On n'a pas écouté les Français.
Mais écoutez, c'est lui qui a fait voter le CETA, qui a adopté le traité de libre-échange avec le Canada sans même consulter les parlementaires.
Mais il y a eu des traités avant.
Attendez, soyons précis. C'est lui qui a renégocié en douce les travailleurs détachés en cédant tout à l'Allemagne. C'est lui qui a rien obtenu au niveau européen. C'est lui qui a signé le pacte de Marrakech en douce. Mais plus personne ne croit ce genre de discours.
Ça n'est pas lui qui a fait le traité de Lisbonne, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait.
Mais il n'a pas proposé de le changer dans son programme présidentiel. C'est lui qui applique la feuille de route de Bruxelles sur la désindexation des retraites, sur les hausses de CSG. Mais enfin... Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles.
Il est revenu sur la hausse de la CSG.
Non, sur une partie. Les retraités vivent un enfer en France. Donc, à un moment, il faut arrêter. L'image est belle. Moi, je vois l'image, elle est belle, elle est formidable. Sauf qu'il fait exactement l'inverse. Il parle de crise sociale.
Mais vous vouliez qu'il fasse
Mais c'est lui qui a supprimé l'ISF.
Il veut qu'il mette sa tête sur le bio.
Qui change de politique. Mais c'était quand même pas
Donc
compliqué.
Faire ce qu'on a fait depuis 30 ans et qui n'a jamais marché.
Non. Parce que faire souffrir les retraités et rompre le contrat social où vous travaillez toute une vie, vous cotisez...
Il s'est corrigé.
Il n'a rien corrigé du tout. La désindexation des retraites, c'est 2% par an de moins pour des retraités à 800 euros. J'en ai vu ce week-end au repas des anciens de la ville de Vigneux. Une dame m'a dit les larmes aux yeux. On m'a encore enlevé 2% cette année. J'ai plus rien pour vivre. Donc, c'est insupportable ce cinéma. Avec les gendarmes qui arrêtent les gens derrière. Mais on n'est pas sous l'ancien régime. Et ce qui est insupportable dans ces images, c'est que les Français voient bien que tout cela n'est que duplicité. Duplicité. Et on ne peut pas gouverner un pays comme ça, surtout la France. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout faire, mais on attend de lui maintenant, après 2 mois de crise, qu'il prenne des mesures et qu'il les soumette à référendum. Seul le peuple peut arbitrer le conflit entre lui et les Français. Il n'y a pas d'autre solution.
La parole à Frédéric, est-ce que cette colère...
Vous avez vu qu'il y a un dernier sondage où le soutien au mouvement des Gilets jaunes reprend 10 points. Oui. Parce que les Français en ont marre de ce cinéma de communicants.
Mais Macron reprend des points aussi. Donc
très léger. Voilà.
Est-ce que cette colère-là, est-ce que vous ne l'entretenez pas, vous, soigneusement ?
Je la soutiens. Parce que je veux que mon pays s'en sorte. Et je l'assume. Et je fais des propositions d'économie. Parce qu'on ne s'en sortira qu'en réduisant les gaspillages pour redistribuer du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Et je suis pas dans la démagogie à dire tout rasé gratis. Je propose de supprimer le scandale des cartes vitales. Je propose de supprimer le versement à l'Union européenne de 11 milliards pour le réduire à 2. Et ces 9 milliards, je le rends aux retraités. Et je l'avais proposé pendant la présidentielle. Je propose de réduire les aides aux immigrés. Je propose de réduire le train de vie de l'État et de supprimer les conseillers régionaux.
Ça, c'est un programme présidentiel. Ça reviendra en 2022.
Mais non, excusez-moi, vous me demandez si je propose des choses. Je propose des choses.
Oui, mais il est cohérent que si vous proposez votre programme au président de la République qui a été élu il y a un an et demi, il ne choisisse pas de l'appliquer. C'est assez...
Oui, mais vous remarquerez que les mesures qu'il applique sont profondément impopulaires.
Oui,
et est-ce qu'il veut continuer à donner l'image de la France à l'étranger à feu et à sang ? Est-ce qu'il veut continuer à arrêter les gens parce qu'ils manifestent ?
Rapidement,
Nicolas. Non, parce qu'il vaut mieux avoir une burqa en France qu'un gilet jaune. Parce que dans ma banlieue, on n'arrête pas les femmes qui ont la burqa, mais on arrête les gens qui ont des gilets jaunes. C'est ça la réalité du pays aujourd'hui.
C'est un peu du coq à l'âne, mais je voudrais qu'on dise un petit mot du Brexit, puisqu'on attend là dans la soirée le vote des députés britanniques sur l'accord négocié par Theresa May et l'Union européenne pour la sortie de l'Union européenne. On dit qu'il est assez probable que finalement ce soit le non qui l'emporte et que ça pourrait provoquer une crise très importante en Grande-Bretagne. Vous étiez plein d'enthousiasme, vous, en juin 2016, au moment du vote favorable au Brexit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours que la Grande-Bretagne a fait le bon choix ?
Oui, parce que je respecte les peuples et parce que nous sommes dans une oligarchie mondiale qui refuse le suffrage universel. On le voit très bien dans tous les coins. En Italie, il y a un gouvernement élu très populaire et j'entends partout que l'Union européenne, c'est le diable. Monsieur Trump a été élu démocratiquement. Il ne peut pas faire le mur qu'il a promis parce que une oligarchie veut l'empêcher. Et je ne suis pas pour Trump sur tous les sujets. Les Anglais ont voté, mais on rend impossible le Brexit. Parce qu'en fait, il n'y a plus de respect des peuples. Et il faut comprendre que si on continue comme ça, on aura des oppositions au sein des pays qui sont malsaines. Il faut réconcilier en respectant les peuples.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Nicolas Dupont-Aignan. On se retrouve la semaine prochaine,
Roselyne. Oui, la semaine prochaine, Frédéric. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis merci à Camille Néran et à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr, à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.